France Musique. Le journal sur France Musique, c'est avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Saskia, bonjour à toutes et à tous. 400 personnes sous la verrière du Grand Palais, des citoyens, des responsables d'associations et de syndicats, des patrons, des directeurs d'administration et des élus. Ils ont tous été invités à venir écouter le compte-rendu du Grand Débat National et ses premières conclusions. Un bilan sous la houlette du Premier ministre, en attendant encore un peu les décisions concrètes du chef de l'État, Yael Gauz.
Allez, courage, le dénouement est proche, se réjouit le conseiller d'un ministre, impatient de tourner la page du grand débat. L'exécutif va désormais monter en puissance. Sous la verrière du Grand Palais, Édouard Philippe va faire la synthèse, restituer ce que Matignon appelle toutes ces paroles de français, mais sans chercher à les orienter, insiste un proche. La transparence jusqu'au bout, toute la synthèse sera mise en ligne. Demain mardi, c'est différent, on entre dans la phase 2, plus politique. Devant les députés, Édouard Philippe va préparer le terrain, indiquer la méthode, le calendrier, la philosophie des décisions qui vont découler du grand débat. 20 minutes de discours, mais sans en dire trop, car il ne faut pas empiéter sur les arbitrages présidentiels, toujours annoncés autour du 15 avril. Le lendemain, mercredi, même exercice, cette fois devant les sénateurs. Le Premier ministre devrait confirmer qu'au-delà des quatre thèmes initialement retenus par le président, d'autres attentes sont apparues dans le domaine de la santé, sur la dépendance. Le gouvernement s'adapte, mais sans promettre de grand soir, une sortie perlée du grand débat, plutôt qu'un catalogue clé en main pour satisfaire telle ou telle catégorie de Français.
Et pour financer les mesures à venir censées répondre à la crise des gilets jaunes, le gouvernement compte entre autres sur la taxe GAFA qui doit être examinée à partir d'aujourd'hui par les députés. C'est l'un des chevaux de bataille du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui veut que les grandes entreprises du numérique payent davantage d'impôts en France. Sauf que cette taxe n'est manifestement pas à la hauteur des enjeux. C'est en tout cas ce que souligne l'économiste et porte-parole d'Attac, Dominique Plion est l'un des auteurs d'une note publiée hier par l'association qui estime que ce dispositif ne couvrira qu'un tiers de l'activité des GAFA.
Si on prend l'ensemble des 30 entreprises qui sont recensées comme étant dans l'échantillon qui va être taxé, on s'aperçoit que, en réalité, ces entreprises paieront au total 400 millions d'euros. C'est ce qu'a donné Bercy comme estimation. Or, nous pensons que, d'après nos calculs, avec le système Le Maire, en 2017, elles auraient payé 162 millions d'euros, alors que l'impôt de droit commun aurait dû les amener à payer 623 millions d'euros, 4 fois plus. C'est-à-dire que la taxe GAFA sur le chiffre d'affaires, avec un taux très faible, 3%, seulement ne s'attaque pas véritablement au mécanisme de l'évasion fiscale. Ce n'est pas une méthode efficace pour lutter contre l'évasion fiscale des entreprises du numérique. Absolument pas.
Dominique Plinon, le porte-parole d'Attac, répondait à Rémi Brancato. Carlos Ghosn n'est plus administrateur de Nissan. Les actionnaires du constructeur automobile viennent de révoquer son mandat. L'Assemblée générale extraordinaire s'est ouverte par une longue séance de regrets et d'excuses de la part de l'équipe dirigeante. Au Soudan, les forces de sécurité ont dispersé ce matin des milliers de manifestants venus réclamer près du quartier général de l'armée à Khartoum la démission du président Omar el-Béchir. Depuis samedi dernier, les habitants qui défilent dans les rues contre le pouvoir demandent aux militaires de les soutenir. 14 pays se retrouvent aujourd'hui à Quito, la capitale de l'Équateur, pour évoquer une nouvelle fois la crise au Venezuela. Mercredi, ce sera au tour du Conseil de sécurité de l'ONU de se pencher sur la question à la demande de Washington. Dans le pays se joue désormais une guerre d'usure entre le pouvoir en place et l'opposition. Son chef de file, président autoproclamé, est toujours soutenu par une cinquantaine d'États, mais il doit faire face à Nicolas Maduro, qui reste sourd à toute négociation diplomatique. À Caracas, c'est une correspondance de Benjamin Delisle.
Juan Guaido le sait, le temps joue contre lui. Plus la crise se prolonge, plus sa capacité à mobiliser les foules contre Nicolas Maduro risque de s'effriter. Cela s'est vu ces dernières semaines, en particulier à cause des coupures de courant. Beaucoup de Vénézuéliens, pourtant majoritairement favorables à l'opposant, semblent fatigués par la crise politique. C'est pour cela qu'il a annoncé ce week-end le début de la phase finale pour faire plier le pouvoir. Il veut multiplier les manifestations en vue de marcher à terme sur le palais présidentiel et ravir son poste à Nicolas Maduro. De leur côté, les autorités font aussi monter la pression en multipliant les menaces d'arrestation contre Juan Guaido, mais elles n'osent pas encore l'arrêter par peur de la réaction des alliés internationaux de l'opposant, en particulier les États-Unis. Il semblerait que la stratégie chaviste vise aussi à faire taire la contestation. De plus en plus de manifestations sont réprimées, en particulier par les colectivos, des paramilitaires proches du pouvoir qui n'hésitent pas à tirer à balles réelles. Dans ce climat tendu, plus aucun dialogue ne semble possible et le risque d'une l'escalade des violences plane sur le pays.
Un ciel variable sur le sud, le centre et le bassin parisien, de la pluie sur l'est et l'ouest de la France et de la neige sur les montagnes du Jura. Les températures iront cet après-midi de 12 à 19 degrés, Saskia Deville.
Merci beaucoup Olivier, je vous souhaite une très belle journée et on vous retrouve avec grand plaisir demain matin.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.